Alors, selon toute vraisemblance, c'est aujourd'hui ma dernière prédication ici avant le mois de mai 2016, puisque je m'apprête avec ma famille à faire un séjour de 9 mois et demi aux États-Unis. Et puis, avec le départ ou le déménagement de plusieurs autres personnes dans l'église, comme c'est généralement le cas chaque été, je sais que ça peut provoquer un certain découragement parmi ceux qui restent, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais vous demander si vous envisagez l'avenir proche, comme cet été qui est déjà à moitié écoulé, si vous envisagez la rentrée qui approche, si vous envisagez l'année scolaire qui s'annonce, avec optimisme. Est-ce que vous êtes optimiste concernant ces choses? Est-ce que vous êtes encouragé? Ou bien, à l'inverse, est-ce que vous êtes plutôt un peu abattu? Est-ce que vous avez revu à la baisse vos attentes pour l'année qui vient dans la vie de notre Église, en l'occurrence? Peut-être que ça fait pas très longtemps que vous venez à l'église, du coup vous n'avez pas forcément conscience de son évolution sur les dernières années. Et c'est peut-être autre chose qui vous décourage aujourd'hui. Peut-être que vous êtes découragé, non pas par l'évolution de la vie de l'église ou des perspectives d'avenir pour notre église, peut-être que vous êtes découragé plutôt par l'évolution du monde qui vous entoure, comme vous pouvez le constater chaque soir au journal télévisé. Ou peut-être que vous êtes découragé par l'évolution de votre propre vie à vous, votre vie personnelle. L'évolution de vos relations familiales peut-être, ou de votre situation professionnelle. Peut-être que vous êtes découragé par l'évolution de votre relation avec Dieu, par l'évolution de votre vie spirituelle, personnelle, si vous êtes chrétien. Et même si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des choses dans la vie, dans votre vie, peut-être dans le monde qui vous entoure, des choses qui ont tendance à vous décourager. Alors je ne sais pas ce quelles sont ces choses, mais il y a sûrement des choses qui ont tendance à vous décourager, à vous déprimer, n'est-ce pas? À vous abattre, à faire disparaître vos attentes positives dans la vie et à les remplacer peut-être par un certain cynisme, peut-être par le pessimisme, et qui sait, peut-être même par le désespoir. D'ailleurs, peut-être que vous savez que le nombre de suicides augmente considérablement pendant l'été chaque année, par rapport au reste de l'année. Mais sans aller jusque-là, bien sûr, peut-être que vous êtes juste un peu désabusé, un peu désabusé. Honnêtement, que ce soit par rapport à l'avenir de notre Église, que ce soit par rapport à l'avenir du monde, ou que ce soit par rapport à votre avenir personnel, vous avez peut-être juste envie, des fois, de baisser les bras. Non? Envie de vous retirer dans un coin et d'attendre que ça se passe. De passer le temps, quoi, de vous tourner les pouces et d'attendre que ça se passe. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes peut-être pas très motivé à vous engager dans l'Église, peut-être pas très motivé à témoigner auprès de vos amis, peut-être pas très motivé à vous investir dans la société parce que rien de tout ça ne vous semble aujourd'hui très prometteur, franchement. Ben dans le texte qu'on va lire, vous allez voir, je crois que l'auteur veut corriger cette attitude pessimiste chez les croyants en particulier. Il veut corriger cette attitude pessimiste. En fait, dans le contexte du texte qu'on va lire, je vous explique brièvement, l'auteur, qui est un prophète de l'Ancien Testament du nom d'Ésaïe, eh ben, dans les chapitres qui précèdent, il vient d'annoncer au peuple de Dieu, aux Israélites à cette époque-là, que ces Israélites vont passer par de terribles épreuves. C'est un prophète, il parle de la part de Dieu et il leur prédit de terribles épreuves imminentes. Leur situation personnelle va se dégrader, leur situation familiale va se dégrader, leur situation d'église va se dégrader, la situation du monde autour d'eux va se dégrader, la société dans laquelle ils vivent va se dégrader. Considérablement. Mais n'empêche, l'auteur, le prophète Ésaïe, ne veut pas que ses destinataires, c'est-à-dire les gens à qui il parle, il ne veut pas que ces gens-là se découragent ou qu'ils désespèrent. Surtout ceux qui vont écouter attentivement ses paroles, parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas tout le monde qui écoutait attentivement les paroles des prophètes, mais il se dit, il y en a qui vont écouter attentivement, et ils vont prendre à cœur mon discours, ils vont prendre à cœur ces avertissements sévères que je leur adresse concernant l'avenir imminent, fait d'un certain nombre de malheurs. Et il ne veut pas que ces gens se découragent pour autant. Il veut plutôt leur inspirer de l'optimisme malgré une situation a priori pas du tout réjouissante. Et pour les inciter à rester fidèles et engagés, ces gens-là, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leur vocation en tant que peuple de Dieu, c'est l'équivalent de l'Église aujourd'hui, pour cela, dans ce but, l'auteur va leur parler de quelqu'un. Il va leur parler de quelqu'un. Quelqu'un de très particulier, quelqu'un que Dieu destine à son peuple comme roi et comme conducteur, quelqu'un que Dieu promet qu'il va envoyer pour son peuple, quelqu'un qui va tout simplement, écoutez bien, tout simplement résoudre tous leurs problèmes. Pas mal. Et cela bien au-delà de leurs plus folles espérances. Et tenez-vous bien, ce quelqu'un, ce conducteur, ce roi formidable, c'est celui qui est aujourd'hui le chef de l'Église réformée évangélique de Lyon-Gerland. C'est celui qui est en fait le chef de tous les chrétiens. Et ce que ce texte veut nous faire comprendre tout simplement, c'est que, en fait, si tu es attaché à Jésus, si tu es attaché à Jésus qui est ce chef-là, ce roi, ce conducteur, tu n'as pas le droit d'être pessimiste. D'accord ? On va lire le texte. Chapitre 11 du prophète Ésaïe, du livre du prophète Ésaïe, ça a été écrit à peu près 700 ans avant la naissance de Jésus. Vous allez voir qu'il parle de quelqu'un. Mais sachez que ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus. Nous lisons la parole inspirée de Dieu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et on peut encore ajouter le verset 10. Alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Avant de regarder ce texte plus en détail, prions. Merci notre Dieu, notre Père, pour la chance que nous avons aujourd'hui, encore une fois, d'étudier ensemble ta parole. Mais ce serait des moments vains s'ils n'étaient conduits par ton esprit. Alors Seigneur, s'il te plaît, sanctifie la prédication de ta parole, utilise ta parole pour nous instruire et plus que cela, pour nous changer, pour nous transformer selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, si tu es attaché à Jésus, si tu es attaché à ce roi, à ce conducteur, tu n'as pas le droit d'être pessimiste, j'espère vous en convaincre cet après-midi. Je l'ai dit en introduction, le contexte de ce passage, c'est que le prophète Ésaïe vient de parler au peuple d'Israël, il vient de leur parler de terribles conflits qui vont survenir entre le peuple de Dieu et les ennemis du peuple de Dieu, qui sont aussi les ennemis de Dieu tout simplement. Le prophète a placé ses lecteurs devant la violence imminente, mais qui est déjà en fait présente, déjà visible pour ceux qui veulent la voir, la violence du monde qui les entoure. Il a placé ses lecteurs devant le péché de l'humanité, tout simplement, devant nos besoins les plus profonds, devant nos souffrances les plus intimes, les plus intenses. Et il va alors, à ce moment-là, au moment où on se dit peut-être le peuple va désespérer à ce moment-là, c'est super déprimant tout ce qu'il a à dire jusque-là. Mais là, au chapitre 11, il va introduire un personnage, un nouveau personnage dans son discours. C'est celui qu'on a coutume d'appeler le Messie. Dans l'Ancien Testament, je vous ai déjà parlé de ce personnage du Messie, personnage dont la venue est promise dans l'Ancien Testament et dont la venue s'est produite avec la naissance et la vie de Jésus-Christ. Mais par la façon dont le prophète Ésaïe présente le Messie, excusez-moi, comme dirait Jonah, j'ai un chat dans la gorge, il ne veut pas sortir. Par la façon dont le prophète Ésaïe présente le personnage du Messie, il veut nous faire comprendre dans un premier temps, au verset 1 et 2, que ce Messie, ce sera vraiment un conducteur parfait, un chef idéal. Il nous présente les qualités du roi. Il y aura en lui exactement tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont le peuple a besoin. Nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin d'un prophète digne de confiance. Le peuple a besoin d'un prophète digne de confiance, capable de transmettre fidèlement et intégralement et de façon authentique la volonté de Dieu. On a besoin aussi d'un roi conquérant, quelqu'un qui serait un fin stratège, capable d'étendre le règne de paix du Seigneur. Et on a besoin enfin d'un prêtre entièrement consacré à Dieu, quelqu'un qui peut faire l'intermédiaire parfaitement entre les hommes et Dieu pour nous présenter à Dieu, pour que nous puissions avoir cette relation avec Dieu, être réconcilié pour toujours avec Dieu. Et donc, il présente ici au début quelqu'un d'idéal pour accomplir ses fonctions de prophète, de prêtre et de roi d'une manière parfaite. Alors imaginez que vous héritiez d'un terrain vague un jour, d'une arrière-grande-tante qui vient de décéder, et vous comptez construire votre maison sur ce terrain dont vous venez d'hériter. Simplement, vous ne pouvez pas la construire tout seul, cette maison. Vous pouvez peut-être bricoler un petit peu, faire un creuser par-ci par-là, monter peut-être un ou deux parpaings, mais ce dont vous avez besoin, en fait, c'est d'un terrassier, d'un maçon, d'un plaquiste, d'un plombier, d'un électricien, d'un charpentier, d'un menuisier, d'un couvreur, d'un carreleur, d'un façadier, voire même d'un peintre, d'un paysagiste, d'un installateur de cheminée. Vous avez aussi besoin de déménageurs pour vous aider à déménager vos meubles. Alors imaginez maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce que je vais trouver ces gens-là compétents pour faire toutes ces tâches différentes? Et imaginez qu'un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous dise, voilà, bonjour, moi, je suis spécialiste dans tous ces domaines. Je suis spécialiste dans tous ces domaines. Et ça, c'est Jésus dans le texte. C'est le Messie dans le texte. Spécialiste dans tous les domaines où nous avons des besoins. Nous, on est comme devant ce terrain vague en tant qu'êtres humains, et le terrain vague, c'est notre vie, c'est notre existence. On regarde les informations à la télé, on constate les conflits dans le monde, on constate les conflits dans notre propre vie, nos conflits avec nos prochains, nos conflits intérieurs avec nous-mêmes, n'est-ce pas ? En tant que chrétiens, nous constatons aussi les difficultés que nous avons à assumer notre vocation chrétienne, notre vocation de peuple de Dieu, peuple saint, notre difficulté à faire grandir l'Église, n'est-ce pas ? Notre difficulté à témoigner efficacement de notre foi, notre difficulté à influencer en bien la société. On se dit, mais on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, on n'arrive pas à produire du fruit, on n'arrive pas à produire du fruit durable, on est dans un monde qui est en proie au mensonge, à l'injustice, à la violence, etc., 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 devant ce terrain vague, donc, et nous mesurons quels sont tous nos besoins. Nous avons besoin, n'est-ce pas, que quelqu'un nous dise ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, un prophète parfait, n'est-ce pas ? Nous avons besoin de quelqu'un qui soit plus puissant que l'injustice, capable de vaincre le mal, n'est-ce pas ? Un roi conquérant, vous voyez ? On a besoin de quelqu'un qui puisse nous faire connaître Dieu, rétablir notre relation avec lui, nous qui sommes ses créatures, lui notre créateur. Cette relation qui a été brisée, qui a été abîmée, rompue, on a besoin que quelqu'un la rétablisse, un prêtre, donc un prêtre idéal qui puisse rétablir pour toujours cette relation. Et dans ce texte, Ésaïe chapitre 11, Jésus, le Messie, se présente à nous et il nous dit, voilà, bonjour, c'est moi, le spécialiste dans tous ces domaines. Vous ne trouverez pas mieux que moi pour tous ces domaines. Je suis la réponse à tous tes besoins. Je suis, moi Jésus, la réponse à tous tes besoins. Et la première chose qu'affirme ce texte, vous voyez, c'est donc le caractère parfaitement suffisant de ce personnage qu'est le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le caractère parfaitement suffisant, le prophète, le roi et le prêtre dont nous avons besoin. Alors la première question qu'on doit se poser, que chacun de nous devons nous poser, c'est la suivante. Est-ce que c'est lui que j'ai embauché pour la construction de ma maison, si j'ose dire ? Ou bien est-ce que je suis encore à essayer de faire ça tout seul? Ou peut-être est-ce qu'il y a des domaines de la construction de ma maison, des domaines de la construction de mon existence, si vous préférez, que j'essaye d'assumer tout seul? Ou j'essaye de faire un meilleur boulot que Jésus? Est-ce qu'il y a encore des domaines dans ma vie où j'essaye de faire mieux que lui? Ou bien, et c'est peut-être pire, est-ce qu'il y a encore des domaines dans ma vie où j'ai remis le travail à un faux dieu, c'est-à-dire à un ouvrier incompétent qui va nous décevoir à la fin? À quelle idole est-ce que j'ai remis tel ou tel domaine de ma vie, tel ou tel domaine de la construction? S'il y a autre chose que Jésus au centre de votre vie, vous allez découvrir à un moment ou à un autre que vous êtes encore dans le besoin. Vous ne pourrez pas être satisfait. Vous serez toujours frustré, toujours déçu. Si vous essayez de résoudre les conflits dans votre existence, indépendamment de Jésus, vous n'allez pas y arriver. Vous allez découvrir que c'est insuffisant. Plus généralement, tout remède qu'on essaye d'apporter au conflit dans le monde, au mensonge dans le monde, à l'injustice dans le monde, tout remède qu'on essaye d'apporter ou d'appliquer à ces choses dans le monde qui nous entoure, si on essaye de les appliquer, ces remèdes, indépendamment de Jésus, ça va échouer un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'on peut dire, sans sourciller, sans exagérer, que le salut du monde se trouve en Jésus. Un point, c'est tout. Et nulle part ailleurs. Et tant que le monde n'aura pas plié le genou devant Jésus, en tant que Sauveur et Seigneur, il y aura encore des conflits, encore des mensonges, encore de l'injustice, encore de la souffrance, encore la mort. Et heureusement que nous savons, parce que la Bible nous l'apprend, que l'histoire s'achemine vers ce but ultime où la création tout entière va plier le genou et prêter allégeance à Jésus-Christ. Et ce jour-là, son règne sera pleinement établi dans le cosmos tout entier. Alors là, vous dites ok, théoriquement ça marche, mais Jésus aujourd'hui il est où? Il est au ciel. Enfin, il n'est pas sur terre quoi. Enfin, on le saurait s'il était là sur terre. Je pense qu'il y aurait des fois des journalistes qui iraient l'interviewer, tout ça, mais il n'est pas là. Il est monté au ciel d'après la Bible, il est auprès du Père. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aujourd'hui du coup? Et on imagine parfois que Jésus n'est pas vraiment impliqué dans les affaires du monde. Même en tant que chrétien, on se dit des fois, mais Jésus n'est pas vraiment impliqué. Il a fait ce qu'il avait à faire, il est monté au ciel. Maintenant, il se repose et un jour, il va revenir nous surprendre. Et nous, il faut qu'on attende ce moment-là. Peut-être qu'en attendant, il y a des choses qu'on peut faire, comme par exemple, essayer de sauver un maximum de gens de l'enfer, quoi, pendant qu'il est encore temps. Et c'est pas faux, c'est vrai que c'est bien de penser à ça. Mais l'œuvre du Messie est décrite en des termes quelque peu différent dans le texte qu'on a lu, n'est-ce pas? Le Messie doit venir, en effet, il est venu pour nous, il devait venir pour les destinataires du prophète Ésaïe. Mais d'après le prophète, en tant que roi, une fois venu, il doit alors occuper le rôle d'un juge parfaitement juste. Il doit arbitrer la terre, verset 4. Et c'est comme ça qu'un roi exerce son règne, n'est-ce pas? Un roi qui est retiré dans une demeure à l'autre bout du pays et qui ne s'occupe pas de ce qui se passe dans son pays, c'est pas un roi qui a beaucoup de pouvoir, ou en tout cas c'est un pouvoir qui est mis en sourdine, il fait pas grand chose pour son royaume. Mais c'est pas comme ça qu'il est décrit Jésus dans le texte, n'est-ce pas? Il doit venir et alors il doit arbitrer il doit être l'arbitre des malheureux de la terre, il va juger les pauvres avec justice, il va même frapper la terre, verset 4, du sceptre de sa parole, il va faire des choses, il va être en activité, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand on lit les évangiles dans le Nouveau Testament, on découvre, et c'est peut-être, ça vous a peut-être surpris, cet aspect des choses, quand on a étudié on est en train d'étudier l'évangile selon Matthieu, on n'a pas fini, mais au cours des dernières prédications dans l'évangile selon Matthieu, à chaque fois qu'il est question du royaume, on voit que la réalité du royaume de Jésus, c'est quelque chose que Jésus est venu inaugurer sur la terre. Il est venu démarrer quelque part, établir d'une certaine façon, en tout cas, son royaume sur la terre par sa venue, n'est-ce pas? Par son œuvre, sa mort, sa résurrection. D'ailleurs, même l'apôtre Paul, dans les Épîtres, écrites il y a presque 2000 ans, il dit que Jésus a déjà vaincu ses ennemis, et que d'ailleurs, il s'est assis sur le trône, déjà le trône de l'univers. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Mais Jésus, il n'est pas monté au ciel pour prendre sa retraite. ou pour se reposer ou pour prendre des vacances en attendant de revenir. Il n'est pas monté au ciel comme moi, je vais aller aux États-Unis pour 9 mois et demi faire autre chose, d'accord? Pendant 9 mois et demi, moi, je ne vais pas faire grand-chose ici dans l'église. Jésus, ce n'est pas ça. Il n'est pas parti ailleurs faire une tournée de je ne sais pas quoi. Non, il est monté au ciel, mais ce n'est pas pour arrêter d'agir. D'ailleurs, dans l'introduction du livre des Actes, n'est-ce pas? Après l'ascension, enfin, le livre des Actes, ça raconte on appelle ça le livre des Actes des apôtres, parce qu'on voit que les apôtres font beaucoup de choses dans le récit, mais en réalité, comment l'auteur introduit son récit? Il dit, je vous ai parlé, dans mon premier tome, c'est-à-dire dans l'évangile selon Luc, je vous ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Après, Jésus, il monte au ciel. Ce qui est sous-entendu, c'est que maintenant, je vais vous raconter ce qu'il a continué de faire et d'enseigner maintenant qu'il est au ciel. Maintenant qu'il est auprès du Père, maintenant qu'il règne. Et comment est-ce que Jésus exerce son règne aujourd'hui? Est-ce que vous savez comment Jésus exerce de manière efficace, de manière fructueuse, comment il exerce son règne aujourd'hui, en France, à Lyon en particulier, ici dans notre Église? Ésaïe, dans le texte, nous dit que le Messie frappe la terre du sceptre de sa parole et que du souffle de ses lèvres, il fait mourir le méchant. Eh bien, j'aimerais vous présenter le sceptre de Jésus parce que je l'ai apporté avec moi aujourd'hui. Le sceptre de Jésus, la Sainte Bible, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, le sceptre de Jésus, le souffle de ses lèvres, c'est sa parole, c'est la Bible. Jésus exerce son rôle en tant que roi et en tant que juge. Il exerce cette fonction depuis son ascension auprès du Père. Il le fait par le moyen de sa parole, c'est-à-dire, je vais être très clair, sa parole qui est la Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. À chaque fois que vous étudiez la Bible, en fait, à chaque fois que vous venez à l'église écouter la prédication de la parole de Dieu, si c'est une prédication fidèle à la parole de Dieu, sachez que vous vous exposez à l'épée du Seigneur Jésus, plus acérée qu'une épée à double tranchant, qui compte pénétrer jusqu'à la division de votre âme et de votre esprit, de vos jointures et de vos moelles, qui compte juger vos pensées et vos sentiments. Vous voyez que Jésus est impliqué dans le monde aujourd'hui. Il est impliqué dans le monde aujourd'hui. Il exerce son règne, il exerce son autorité par le moyen de sa parole. Il le fait dans le monde, il le fait dans notre vie personnelle en tant que croyant, il le fait de façon vivante et dynamique dans notre vie, dans la vie de notre Église, et même dans notre société, toujours par l'intermédiaire de sa parole, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est enseignée, lorsqu'elle est diffusée publiquement, sans détour, fidèlement à son intention. Cette parole de Dieu, c'est le sécateur du vigneron, pour reprendre une illustration de Jésus lui-même. C'est le sécateur du vigneron qui vient émonder la vigne, qui vient faire du travail, qui vient produire un effet. Et le prophète Ésaïe nous certifie au verset 5 que tout ce que Jésus accomplit par le moyen de sa parole est parfaitement juste. Alors vous reconnaissez peut-être, théoriquement, intellectuellement, vous reconnaissez peut-être en Jésus cet ouvrier polyvalent, spécialiste de tous les domaines dans lesquels vous avez des besoins. Vous le reconnaissez peut-être. Mais, pour accueillir son œuvre, il faut encore placer votre confiance en lui. Il faut tout simplement, si j'ose l'expression, le laisser faire. Non pas qu'on puisse empêcher Jésus de faire ce qu'il a décidé, n'est-ce pas? Mais il sollicite néanmoins notre foi. Il appelle notre foi, non? Il appelle notre confiance. Et placer sa confiance en Jésus, ça implique de recevoir avec confiance tout ce qu'il dit. C'est pour ça qu'étudier la Bible, écouter les prédications, aller à l'étude biblique, mais aussi diffuser le message de la Bible, tout ça c'est très important, parce que c'est comme ça que Jésus agit, ici-bas. Cette action de Jésus s'opère de façon ordinaire dans le cadre de l'église locale, dans le cadre de notre église réformée évangélique ici à Gerland. C'est pour ça aussi que votre engagement dans l'église est super important en fait, parce qu'il s'y passe des trucs à l'église. Jésus agit par le moyen de sa parole. C'est pas rien. Si on a confiance en Jésus, si on veut bien le laisser faire, si j'ose l'expression, on va venir, non? On va venir, on va se joindre à d'autres chrétiens. On va écouter ce que Jésus veut nous dire et ce qu'il veut faire dans notre vie à travers sa parole. Mais voilà, est-ce que Est-ce qu'on est prêt, quand on est à l'écoute de cette parole, est-ce qu'on est prêt à modifier notre perspective sur le monde afin de la conformer à la perspective de Jésus? Est-ce qu'on est prêt à ce qu'il nous émonde, à ce qu'il nous corrige, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à ce qu'il fasse ce qui est nécessaire dans notre vie pour que nous puissions porter plus de fruits à sa gloire? C'est lui l'arbitre de tous les domaines de la vie, du plus petit détail de votre vie, du plus petit détail que vous n'osez pas avouer à votre voisin, jusqu'aux enjeux les plus grands de la planète. Jésus est l'arbitre de toutes ces choses, des plus petites aux plus grandes, et il a quelque chose à dire à chaque fois. Mais il reste encore une question. Il reste encore une question que le texte aborde ici. On a dit que Jésus était le Messie idéal, capable d'apporter la réponse idéale à tous nos besoins. On a dit qu'il a d'ailleurs déjà inauguré son royaume par sa venue sur terre, par son œuvre à la croix, par sa résurrection, par son ascension auprès du Père. On a dit qu'il était déjà donc en train d'exercer son règne par le moyen de sa parole. Mais on n'a pas dit ce qu'il comptait faire. On a dit qu'il comptait le faire, mais on n'a pas dit quoi. Qu'est-ce qu'il compte faire? Concrètement, qu'est-ce qu'il compte faire? Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, vous voyez, à partir du verset 6, lorsque le prophète Ésaïe a établi ses principes, le principe du caractère suffisant du Messie, le principe que le roi compte agir de manière pratique et visible, ben ensuite, verset 6 à 9, Ésaïe se met à décrire le royaume. C'est un peu bizarre quand on lit, n'est-ce pas? Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tous ces êtres qui habituellement sont ennemis, hein, ils cohabitent pas très bien normalement ces animaux, eh ben ils seront ensemble alors. Ils seront ensemble sous l'effet des actes du roi, sous l'effet de la mission du Messie. Ils vont commencer à vivre ensemble en parfaite harmonie. Et c'est vrai que quand on étudie le reste de la Bible, on se dit que cette communion, y compris des animaux, se réalisera sans doute pleinement sur ce qu'on appelle la nouvelle terre, dans cette nouvelle création que le Seigneur Jésus compte reconstituer après son retour ou lors de son retour. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu plus, dès aujourd'hui, dans le royaume de Jésus, cette description de cette harmonie devrait s'appliquer. L'Église étant l'expression du royaume de Jésus, ici et maintenant. Alors, si jamais vous voyez une panthère venir à l'église, vous l'accueillerez bien, d'accord? Non, on sait qu'en fait, les animaux, dans le discours de l'Ancien Testament, représentent souvent différents types de personnes, différentes personnalités, différents types de gens. Des gens qui, normalement, ici-bas, ordinairement, ne se fréquentent pas trop. Des fois, sont carrément ennemis les uns des autres, comme les animaux le sont par nature, des fois. Mais ce qu'Ésaïe est en train de dire, donc, c'est que dans l'Église, dans le royaume de Jésus, sur la montagne sainte dont il est question au verset 9, eh bien, là, Jésus compte instaurer ce genre d'harmonie. C'est ça que Jésus est en train de faire, en fait. Dans l'Église, c'est ce qu'il compte faire dans l'Église sous l'effet de sa parole, c'est de faire habiter en harmonie des gens complètement différents les uns des autres. Jésus, le roi, veut réunir dans son royaume des gens qui étaient ennemis en dehors. L'exemple récurrent de ce fait, de cette réalité dans le Nouveau Testament, c'est celui des Juifs et des païens, des Juifs et des non-Juifs, qui ne se fréquentaient pas autrefois, mais qui sont réconciliés, réunis, qui se retrouvent solidaires et même unis en Jésus dans son royaume. Alors ça, c'est complètement révolutionnaire, si j'ose dire, pour le premier siècle. C'était impensable avant. Pourtant, Jésus l'accomplit. Mais aujourd'hui, on ne pense pas forcément selon ces termes, hein. On pense plutôt à d'autres situations de conflit qui opposent les gens les uns aux autres, des conflits dont la seule solution durable se trouve en Jésus. Pensons aux Israéliens et aux Palestiniens, par exemple. Pensons aux socialistes et aux capitalistes. Pensons aux écologistes et aux industriels. Ces conflits récurrents, permanents, dont on n'arrive pas à sortir. Pensons aux conflits entre riches et pauvres, entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes, entre supporters de l'OL et supporters de Saint-Étienne, des gens qu'on ne peut pas réconcilier sans Jésus, vous voyez ? Ou encore, pour penser à des exemples peut-être plus d'actualité, on pense aux conflits internationaux, américains et iraniens, par exemple, la difficulté qu'il y a à ce type de niveau. Mais où cette réconciliation doit-elle commencer? Elle doit commencer ici. Ici, à l'endroit même du royaume où Dieu vous a placé. C'est là que ça commence. Le premier conflit que Jésus veut résoudre, c'est d'abord celui qui t'oppose toi à Dieu. C'est le premier conflit que Jésus veut résoudre. Et pour résoudre ce conflit, cette rupture entre toi et Dieu, Jésus a pris sur lui les conséquences de tes fautes pour te réconcilier avec Dieu, pour t'en libérer. Et aujourd'hui, si ce discours résonne à tes oreilles, si ce discours remue ton cœur, c'est sans doute que le Saint-Esprit t'appelle à plier le genou devant Jésus et à recevoir sa grâce et à être réconcilié pour toujours avec Dieu. C'est la réconciliation la plus importante et elle commence là, dans ton cœur. C'est la réconciliation de ton être avec celui qui l'a créé. Mais Jésus, il veut aussi résoudre non seulement le conflit qui m'oppose à Dieu, il veut résoudre les conflits qu'il y a dans ma maison, dans ma famille, entre parents et enfants, entre époux et épouses. Il veut que déjà, chez nous, la vache et l'ours aient un même pâturage. Chérie, la vache et l'ours doivent avoir un même pâturage sous notre toit. Tu choisis, t'es la vache ou t'es l'ours, moi je suis l'autre. Mais le Seigneur veut qu'on ait un même pâturage. Ça passe par là, n'est-ce pas? Ça commence par toi. Mais ça se poursuit avec ta famille, avec tes enfants. Ça se poursuit avec l'Église, bien sûr, la communauté des croyants, où là doit s'exprimer aussi l'harmonie du royaume de Jésus. Où, nous dit le verset 9, il ne se fait ni tort ni dommage sur la montagne sainte du Seigneur. Nous sommes la montagne sainte du Seigneur. Dans l'Église, mes amis, il ne devrait pas y avoir de place pour les torts et les dommages. Le problème, c'est que bien souvent, on ne se rend pas vraiment compte de cette vocation qui est la nôtre et qui commence ici, qui commence chez moi, chez soi. On est d'accord pour dire que Jésus est le roi idéal, qu'il est un roi en activité, qu'il a un programme pour aujourd'hui, pour maintenant, mais on sous-estime le fait que ça commence là. On aimerait que ça commence chez les autres. On aimerait que ça commence plus grand quelque part, que ce soit un peu plus spectaculaire, un peu plus vite quoi. Mais ça commence là. Quand on prend l'avion, et ce sera notre cas dans quelques semaines, moi je suis toujours frappé par les instructions de sécurité, même si maintenant je commence à m'y habituer, où on nous dit que dans l'éventualité d'une dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène vont tomber du plafond, et il nous est précisé qu'il faut impérativement mettre son propre masque à oxygène d'abord, avant même de s'occuper des enfants qui pourraient être à côté de nous, ou des personnes fragiles. Vous commencez par mettre votre masque et ensuite vous verrez à mettre le masque à oxygène à d'autres qui en ont besoin et qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Pourquoi ? La raison est simple finalement. C'est que si on ne s'occupe pas de soi d'abord, on risque de s'évanouir avant d'avoir pu aider quelqu'un d'autre. C'est de la logique, n'est-ce pas ? Mais moi ça me frappe à chaque fois, je dis, bien sûr les femmes et les enfants d'abord, vous savez, c'est mon côté un peu héroïque. Que je pense avoir, mais que je n'ai pas réellement. Mais c'est frappant. Mais c'est un principe logique, et c'est le principe de comment le Seigneur fonctionne. Il s'occupe de nous d'abord. Et ensuite, à travers nous, un outil rendu alors disponible, rendu alors apte, rendu saint par l'action du Saint-Esprit, alors Dieu nous utilise comme un instrument de choix pour faire son œuvre. Et un des problèmes que nous avons, d'ailleurs que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, un problème qui explique pourquoi nous nous décourageons facilement, pourquoi peut-être aujourd'hui vous êtes découragé, pourquoi nous baissons les bras facilement. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons griller les étapes, je le mentionnais il y a quelques instants. Nous nous préoccupons de l'état du monde avant de nous préoccuper de l'état de notre vie. C'est pas vrai ? Nous voulons que l'Église grandisse plus que nous voulons grandir nous-mêmes. Nous voulons que la société soit transformée sans nous préoccuper d'être transformés nous-mêmes. Et c'est décourageant, effectivement, parce qu'on a l'impression d'être démuni et impuissant par rapport à ce qu'on recherche, mais c'est parce qu'on ne recherche pas ce qu'on devrait rechercher, en tout cas pas en priorité. Mettre son masque d'abord, c'est ce que Dieu veut pour nous. Tu ne peux pas changer le monde, tu ne peux pas provoquer la croissance de l'Église, tu ne peux pas convertir ton prochain, mais voici ce que tu peux faire. Si tu n'es pas chrétien, tu peux te tourner vers Jésus, le Sauveur parfait. C'est déjà la première chose à faire. Si tu es chrétien, tu peux prier. Tu peux lire et étudier la Bible pour le bien de ton âme. Tu peux assister fidèlement aux cultes et aux activités de ton église. Tu peux te rendre disponible pour tes frères et sœurs. Tu peux demander pardon à ton conjoint ou à tes enfants. Tu peux te consacrer à eux, les aimer. Tu peux témoigner auprès de tes collègues, auprès de tes voisins, etc. etc. C'est comme ça, mes amis, que le roi compte faire croître son royaume et le déployer. Une personne à la fois, une famille à la fois, une église à la fois, sur toute la terre. Alors ce texte nous a parlé du Messie que Dieu nous a envoyé pour résoudre nos problèmes et pour satisfaire nos besoins les plus profonds. Ce Messie, le Seigneur Jésus donc, incarne tout ce dont nous avions besoin. Et il est venu. Il est venu à peu près 700 ans après que le prophète ait prononcé ses paroles auprès des Israélites. Le Messie est venu conformément aux promesses de Dieu. Il est venu, il a vu, il a vaincu, il a inauguré son royaume et il s'est assis sur un trône à la droite du Père. Toutes choses lui ont été soumises, c'est fait. Le cosmos lui est soumis, même si nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Et il est en train maintenant d'exercer son règne par le moyen de son sceptre, qui est la parole de Dieu, la Bible, et par le moyen du souffle de ses lèvres. Il compte instaurer dans son royaume une pleine harmonie, une paix durable, la justice, tout cela dans le cadre de ses desseins qui sont parfaits, qui sont qui ont été décrétés dans l'éternité. Petit à petit, Jésus accomplit son plan pour le monde. Il déploie progressivement son règne et son autorité. D'ailleurs, parenthèse, j'en parlais avec quelqu'un récemment, vous savez que d'ici 10 ou 15 ans, je crois, enfin en tout cas d'ici une ou deux décennies, la Chine sera le pays au monde avec le plus grand nombre de chrétiens évangéliques. La Chine, mes amis, qui l'eût cru ? Qui l'eût cru il y a de cela déjà peut-être une génération ? Et bientôt, le nombre de chrétiens évangéliques en Chine se comptera en centaines de millions. Petit à petit, Jésus accomplit son plan pour le monde. Il déploie progressivement son royaume, son règne, son autorité, jusqu'au jour où, d'après le verset 9, la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et ce jour-là, ce sera le jour du retour du Seigneur. Alors, comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Comment est-ce que vous envisagez l'avenir à court terme ? Comment est-ce que vous envisagez le prochain mois lorsque vous constaterez que plusieurs familles auront déménagé, que la famille Saran sera plus là ? Comment est-ce que vous envisagez la rentrée qu'il faudra affronter sans ces personnes qu'on aimait bien et qui sont parties ? Comment est-ce que vous allez affronter la nouvelle année scolaire qui s'annonce déjà ? Oui, je suis désolé de vous le dire, mais dans un peu plus d'un mois, ce sera la rentrée. Comment envisagez-vous plus largement l'avenir de notre société, la société française, l'avenir de notre monde, déchiré qu'il est par les conflits, soumis qu'il est aux mensonges et à l'injustice ? Plutôt découragé ? Plutôt enclin à baisser les bras, à vous démobiliser, à vous retirer dans un coin en attendant que ça passe ? Le texte d'aujourd'hui nous dit ceci. Franchement, si tu es attaché à Jésus, j'espère que tu as vu que tu n'as pas le droit d'être pessimiste quand on considère les qualités du roi, les actes du roi. Peut-être quand on considère les sujets du roi, on peut être pessimiste, mais pas quand on considère le roi, n'est-ce pas, ou sa volonté. En fait, baisser les bras quand on est chrétien, c'est un affront à Jésus-Christ. Se désengager de l'œuvre de Dieu parce qu'on n'y croit pas ou parce qu'on n'y croit plus, c'est un affront au Messie que Dieu nous a envoyé. Se dire que l'Église, ça ne va pas aussi bien fonctionner si Alex n'est pas là, c'est un affront à celui qui est le chef véritable de l'Église, qui est d'ailleurs l'arbitre de la terre entière. Vous voyez, la Bible veut remplacer notre découragement par un véritable optimisme, pas en raison de qui on est, mais en raison de qui est le patron, qui est le chef, n'est-ce pas ? Qui est le Messie ? La Bible veut remplacer ce découragement par une espérance robuste et concrète. Et cet optimisme, des fois, on le base simplement sur le retour futur de Jésus. On se dit, bon là, ça va aller mal, mais on sait qu'un jour, ça finira bien parce que Jésus reviendra. C'est déjà bien d'avoir un optimisme basé là-dessus. Mais en fait, je crois que le texte nous enseigne ici à avoir un optimisme basé sur ce que le roi, sur qui il est maintenant et ce qu'il fait maintenant déjà, ce qu'il compte faire maintenant, ici et maintenant. Oui, il établira parfaitement et définitivement son royaume sur toute la terre un jour, alors il abolira toute souffrance et toute injustice, mais cet optimisme chrétien est déjà basé sur l'accueil que nous réservons dès aujourd'hui à Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il compte accomplir dès aujourd'hui, dès ici-bas, en commençant par notre propre vie. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, pardonne notre incrédulité. Nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes, et c'est vrai que notre intelligence, de toute façon, est limitée, mais elle est entachée de péché. Et nous te demandons, s'il te plaît, par ton esprit, de sanctifier notre esprit pour que nous puissions penser selon tes pensées et voir le monde comme tu le vois et considérer l'avenir comme toi tu le considères. Et fais de nous, s'il te plaît, des ouvriers disponibles, des serviteurs fidèles pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.